RFI, grand reportage,
Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage vous emmène aujourd'hui au Canada où depuis le 17 octobre, le gouvernement canadien a légalisé la vente et la consommation de cannabis pour les plus de 18 ou 19 ans selon les provinces. C'est la première fois qu'un pays de cette taille permet l'utilisation de cette drogue à l'échelle de son territoire. De nombreux États américains l'autorisent également, mais le gouvernement fédéral refuse d'étendre cette mesure de façon uniforme. Quatre mois plus tard, le visage du Canada n'a pas fondamentalement changé. La distribution du cannabis varie selon les provinces. Les consommateurs sont au rendez-vous et surtout une nouvelle industrie a fait son apparition. Légalisation du cannabis au Canada, qu'est-ce qui a changé depuis 4 mois? C'est un grand reportage de Marie-Laure Josselin et Pascal Guéricola à la réalisation Eva Piedel.
Nous sommes en direction pour les bureaux chefs de Tweed à Smiths Falls en Ontario. Il fait beau, le soleil est présent parmi nous. Tout va bien.
Un lundi froid de février, un autocar part de Montréal en direction de l'Ontario pour visiter le phénomène économique de l'heure, la ville de Smiths Falls, 9000 habitants, en complète transformation. C'est là que se trouve le siège social de Tweed, Canopy Grove, le plus gros producteur de cannabis au Canada. Ses revenus ont bondi de 250% au dernier trimestre. À bord, des journalistes et des relationnistes de presse, tout sourire.
Et c'est incroyable. C'est incroyable de se dire que maintenant, ça y est, c'est un produit qui est légal et voilà. Et c'est une nouvelle technologie. Donc, oui, c'est tout nouveau.
Ouais, c'est ça. Bienvenue à Smiths Falls.
Un chef québécois très connu fait aussi partie du voyage. Il y a quelques mois, Jean Soulard a publié un livre de recettes pour mieux utiliser le cannabis dans la cuisine. Une façon pour lui d'inviter ses concitoyens à la prudence.
Quand vous parlez de cannabis, vous ne parlez pas de bonbons à la menthe. Quand vous achetez du cannabis, les gens, ils le fument, c'est pour avoir un boss. Et s'ils le mangent, c'est la même chose. Il faut être prudent, là. Il n'y a personne à l'intérieur d'ici qui va avoir la même réaction avec le même dosage. Ça n'a rien à voir avec le sexe, avec le poids, avec votre âge. C'est votre organisme, comment il est fait, qui accepte ou qui n'accepte pas l'ingrédient en question.
Oui, est-ce qu'on pourrait avoir vos pièces d'identité, s'il vous plaît?
Ce fameux ingrédient ne s'offre pas au tout venant. Il faut montrer patte blanche pour pouvoir entrer dans les bâtiments de Canopy Grove, là où poussent les différentes variétés de cannabis, ensuite expédiées aux quatre coins du Canada.
Bonjour.
Petit tour d'horizon des produits avec Adam Greenblatt, l'un des porte-parole, dans un décor au look industriel soigneusement épuré.
Et donc les joints pré-roulés viennent dans des boîtes, des tubes comme ça. Des fois, c'est difficile même pour les adultes, à vrai. Mais c'est pas juste le cannabis séché qu'on vend. Clairement, le cannabis séché, c'est le format le plus populaire. On vend aussi des huiles de cannabis, qui sont des huiles liquides qu'on peut ingérer, ainsi que des gélules qui sont de l'huile de cannabis encapsulée. C'est les produits qui sont les plus proches à des produits comestibles avant qu'on peut mettre les produits de chocolat sur le marché.
Le centre des visiteurs démystifie les dessous d'une plante diabolisée par 100 ans de prohibition. Ici, atmosphère design est branchée. Même les pousses vertes ont l'air de prendre la pose derrière les larges baies vitrées.
Ils sont tous des hybrides, effectivement. C'est pas comme les génétiques d'origine d'Afghanistan ou de l'Inde ou Thaïlande ou quoi que ce soit. Ils ont été tous hybridisés dans ces décennies. Mais on va... Ça a l'air un peu plus indica que celle-là. Et je dis ça juste à base de la grandeur des feuilles. Mais quand on parle des effets, on utilise les termes indica et sativa pour caractériser le spectrum d'effets potentiels. Donc, c'est effectivement un spectrum entre sédatif et stimulant. Donc, indica, c'est un terme pour décrire les effets sédatifs du cannabis. Et sativa, c'est un terme qui décrit des effets stimulants, cérébrales, créatifs du cannabis. Mais en réalité, tout le monde réagit de façon différente à des substances. Il y a un facteur de dosage aussi. Il y a aussi un effet biphasique dans le cannabis. Donc, une puff peut te donner un effet cérébral et stimulant, mais 10 puffs va te donner un effet somnolent. Donc, il y a plus de facteurs que la morphologie ou l'origine de la plante, mais on utilise généralement ces termes-là pour caractériser cet spectrum potentiel.
Le but, il était récréatif.
À quelques mètres de là, le chef s'affaire au fourneau dans une cuisine immaculée. Le cannabis a beau être devenu une plante à la mode depuis quelques mois, reste que son odeur âcre ne lui fait pas bonne presse, surtout quand on la mélange à la nourriture. Jean Soulard.
Il faut enlever les fluves du cannabis, OK? Bien sûr, ça enlève pas pour autant le CBD puis le THC. Alors vous mettez les cocottes dans une marguerite et vous faites, vous mettez le bain-marie en dessous, puis pendant 30 minutes, et la vapeur va passer à travers les cocottes en question et vont enlever cette amertume, ce côté âcre qu'on retrouve quand vous cuisez du cannabis. Vraiment, quand vous faites de l'huile ou du beurre de cannabis, vous avez ce goût qui est absolument incroyable. Juste une seconde, ça commence à bouillir. Ça, c'est la soupe. Avec le moins 25 qu'il y a dehors, ça va nous faire du bien. Okay. Alors voilà, c'est ça.
J'adore cette ville. Nous les avons accueillis à bras ouverts. Cette usine de 5 hectares leur semblait très grande pour leur projet.
Sur le stationnement, l'ancien maire, Denis Staples, contemple les nombreuses voitures d'employés. C'est lui, la première fois, qui a accueilli les dirigeants de Canopy Growth à la recherche en 2013 d'un lieu pour démarrer leur production de cannabis médical.
Je leur ai répondu qu'ils étaient dans un secteur en pleine expansion et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils avaient l'espoir de créer quelques centaines d'emplois.
Même si plusieurs villes en Ontario avaient refusé le projet, le maire de Smith Falls a immédiatement saisi l'intérêt de cette nouvelle industrie. Vide depuis 4 ans, l'ancienne usine de chocolat lui semblait le lieu tout indiqué pour rebâtir l'économie d'une ville où près de 2000 personnes avaient perdu leur emploi dans la dernière décennie.
J'aime mieux ne pas penser à ce qui serait advenu de Smith Falls si Tweed ne s'était pas installé. On n'aurait pas eu toutes ces créations d'emplois. Tous les développements n'auraient pas eu lieu depuis 2013. La ville vivrait une profonde crise économique. On va faire un tour et vous allez voir ça. Pour la première fois dans l'histoire de Smith Falls, les agences immobilières font face à une pénurie de maisons à acheter parce que des gens arrivent ici pour travailler chez Tweed. Alors, c'est un problème, mais un problème sympathique. Vous voyez là-bas cette pelle mécanique? C'est un nouveau quartier qui est en train de se construire et je pense qu'il prévoit de bâtir près de 230 maisons, à la fois des grandes, des maisons collées deux à deux, des appartements à louer. Le projet est bien parti et je pense qu'il y en a un autre en ville. Et ça, c'est très bien, hein? Plus de gens qui achètent des propriétés, qui payent des impôts locaux, qui s'achètent des voitures, de la nourriture. C'est excitant de voir ça.
Les chantiers abondent à Smith Falls. Un nouveau bâtiment se dressera bientôt, non loin de l'usine actuelle de Canopy Growth. On y préparera des aliments intégrant le cannabis, dès que le gouvernement donnera son autorisation, sans doute l'automne prochain. Aux dernières nouvelles, Canopy Growth compte plus de 2000 employés à travers le Canada. Et de nouveaux venus s'ajoutent chaque semaine. Le porte-parole, Adam Greenblatt, a du mal à cacher son enthousiasme.
On est dans une phase de croissance malade. C'est juste l'expansion se fait tellement rapidement. Juste avec l'annonce de la légalisation récréative et la vente au privé dans certaines provinces, on a engagé probablement 1000 personnes juste cet été.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui.
Je suis passé par ici. Il me reste que du 15 grammes, j'ai plus rien en bas de ça.
Parfait. Je pense qu'il reste 1 gramme.
Non, j'ai tout vendu, mon papa. Je suis
Ah oui?
Oui, oui.
À quelques centaines de kilomètres des plantes cultivées à Smith Falls, cette croissance vertigineuse du secteur a des effets immédiats. La Société québécoise du cannabis, les magasins d'État ouverts au Québec depuis la légalisation, manquent singulièrement de produits.
Il me reste deux formes d'atomisateurs à
présentement. OK.
Parfait.
Est-ce que vous savez quand vous
serez... Non, c'est pas malheureusement, c'est quelque chose de surprise pour nous aussi. Là. C'est, ça arrive comme ça vient. On n'a pas l'intégralité des commandes, on n'a pas non plus ce qui vient à l'intérieur.
OK.
Dans les semaines qui ont suivi la vente libre du cannabis, de longues files d'attente se sont formées devant ces commerces opérés par le gouvernement. Une pénurie presque inévitable, comme l'explique le producteur Adam Greenblatt de Canopy Growth.
C'est la faute à personne, vraiment. On ne peut pas juste comme acheter une serre et commencer le jour même de pousser du cannabis à l'intérieur. C'est en partie pour ça que you know, pas tout le produit était disponible jour 1. C'est pas comme le jour, tout est prêt, tout est bon. Tout le monde savait que ça allait prendre du temps pour comme régler toutes les... Et c'est pas quelque chose que tu veux accélérer trop, parce que si tu accélères ce processus trop rapidement, tu vas avoir des erreurs, tu vas avoir des produits rappelés. Donc, il faut quand même préserver la rigueur de ce système juste pour plus rapidement mettre du produit sur le marché.
Fabrice Giguère, porte-parole de la Société québécoise du cannabis, maintient que la situation va s'arranger.
C'est une adaptation, c'est beaucoup de travail, mais ça reste pour l'instant notre plus grande priorité, s'assurer de pouvoir régler les problèmes d'approvisionnement, puis c'est à ça qu'on travaille tous les jours. Il y a différentes provinces qui ont adapté différents modèles. Nous, on a affaire avec 6 fournisseurs qui sont parmi les plus gros fournisseurs. Il y a certaines régions où on n'est pas présent déjà, mais au final, c'est sûr qu'on va avoir, on a le souhait d'avoir un réseau de succursales qui va être vaste et un peu partout au Québec.
L'engouement pour le cannabis pris pour le plaisir a eu des conséquences sur les adeptes du cannabis médical. C'est le cas de cette femme qui ne peut calmer ses douleurs chroniques avec des médicaments classiques. Pendant quelques semaines, elle n'a pas eu accès à cette drogue prescrite par son médecin.
Normalement, je commande le matin, je l'ai le lendemain en après-midi. Mais là, c'est sûr que quand il y a eu la légalisation, ben là, on s'est retrouvé pendant un petit bout avec des délais. J'ai eu des problèmes en octobre, novembre, décembre, un petit peu. Ben, une fois, ça a pris 2 semaines. Ça a été, des journées à ne pas pouvoir faire grand-chose, puis à avoir mal, puis à essayer d'étirer ce qui me restait, donc à diminuer, puis à moins bien dormir, avoir mal au cœur, avoir plus de douleurs.
Les premiers chiffres du gouvernement du Canada témoignent de l'engouement des consommateurs pour le cannabis enfin vendu légalement. En l'autorisant, le premier ministre Justin Trudeau voulait justement couper l'herbe sous le pied aux criminels. Le marché noir n'a pas dit son dernier mot, cependant, si l'on en juge par le témoignage de ce vendeur illégal de cannabis. Marc juge sévèrement la marchandise disponible dans les SDC publics au Québec.
Qu'est-ce qu'ils vendent comme produit? Mais c'est de piètre qualité, c'est sec, c'est pas bon. C'est toujours mieux de l'illégal présentement. J'ai un peu de couche, qui est un cannabis qui est mauve, exactement. Et j'ai le traditionnel M39. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment la bombe. Je peux te le garantir. On va pas se promener loin. On reste assis, puis on relaxe. Puis on mange des gâteaux. Et j'en passe énormément. Les clients réguliers et moins peureux de venir chercher son produit, style à la station de métro, vu qu'il est légal. Voir maintenant légalement, même si je la jette au noir, il n'y a rien là. Présentement, ce QGG, il se vend des petits pots de SQDC qu'on peut acheter, qui est déjà enregistré par le gouvernement, et acheter des produits de contrebande. Si vous êtes intercepté par l'enregistré par le gouvernement et acheter la police ou quoi que ce soit, vous n'avez pas d'amende parce qu'il y a un sticker du gouvernement du Québec. C'est des trucs du métier.
Jean-Sébastien, un fumeur régulier, fréquente, lui, le réseau public de vente de cannabis.
C'était agréable de pouvoir rentrer librement et tout le monde est heureux d'être là, en fait. Et puis là, il y avait des gens de tous les âges, toutes les générations, toutes les couleurs. Tout le monde était là dans la succursale. Hein? Donc ça, oui, bravo, enfin. C'est peut-être ça le plus surprenant depuis 3-4 mois. Je trouve que les langues se sont déliées. les journaux t'expliquent c'est quoi les CBD, le THC, je veux dire, c'est quoi la plante, la marijuana exactement, le mâle, le femelle. Puis on n'est pas gêné de parler de ça, on peut en parler librement, comme on parle de vin, je suis allé visiter un vignoble, tel raisin, tel cépage. Tout d'un coup, ça, il y a plus cette crainte, cette gêne. Il y a une vraie éducation qui se fait. Enfin, la parole se libère.
La parole se libère peut-être, mais les règlements sur la consommation de cannabis n'ont rien de très cohérent. D'abord, chaque province au Canada décide de son mode de distribution. Puis chaque municipalité, voire chaque arrondissement dans une ville comme Montréal, choisit de tolérer ou non la consommation de cette drogue sur son territoire. À Ville-Saint-Laurent, à quelques kilomètres du centre-ville, il est interdit par exemple de fumer sur la voie publique. Une décision saluée par ses concitoyens, selon le maire Alain de Souza.
Bonjour. Le bureau de M. de Souza, s'il vous plaît.
Vous êtes... Vous pouvez monter. Mme Renaud va venir vous ouvrir.
Merci.
Il faut voir que nous avons eu des grandes-mères qui m'ont dit « Merci, j'ai des petits-enfants, et puis je ne souhaiterais pas. » On a eu des jeunes familles qui ont venu, qui ont nous a dit « Ah, j'ai des jeunes enfants, je pense pas que je suis prêt de les exposer à ce produit encore. Je l'ai pas encore, en tant que père ou mère, encore les arguments pour les montrer pourquoi ce n'est pas nécessairement une bonne chose ou une moins bonne chose à faire. J'ai eu des joggers qui aiment faire du jogging sur ma territoire et eux, ils ont dit « Ah, mais merci, quand j'ai fait mon exercice, j'ai pas besoin de passer à travers des nuages de fumée. »
Depuis la légalisation, des propriétaires interdisent formellement à leurs locataires de fumer chez eux, tandis que les députés débattent d'une loi visant à mieux encadrer l'usage du cannabis. Dans la ligne de mire du gouvernement et du ministre de la Santé, les 18-21 ans. Il veut leur interdire au Québec d'acheter cette drogue devenue légale. Lionel Carman.
Mais il ne faut pas se leurrer, les effets néfastes du THC sur la santé mentale et sur les fonctions cognitives des adolescents est dramatique. Même celui qui vient de la SQDC contient des forts taux de THC parfois et ces produits disponibles en magasin ont des risques sur la santé mentale de nos jeunes. Il est impératif de tout mettre en œuvre pour retarder l'âge de la première consommation. Établir l'âge légal à 21 ans et interdire de fumer dans les lieux publics sont des mesures simples, responsables et qui ont fait leurs preuves en matière d'alcool et de tabac.
Pourtant, plusieurs chercheurs et médecins mettent en garde le gouvernement sur les risques d'écarter les jeunes adultes du marché légal du cannabis, comme l'explique cette représentante de la santé publique.
Si je peux me permettre, votre question tout à l'heure était comment les protéger, ces adolescents, avec les produits de la SQDC. Les produits de la SQDC étant contrôlés, on sait exactement ce qui s'y trouve. Je pense que ça, c'est peut-être le meilleur moyen. Les employés ont également une formation sur place. À mon sens, c'est pas en excluant une portion de ces jeunes qu'on va justement les ramener. On les ramènera pas après le 21 ans non plus. S'ils n'ont pas commencé plus tôt ou été sensibilisés aux produits, que ce soit les moyens de sensibilisation plus jeunes, donc dès le 18 ans qu'ils ont accès, on ne pourra pas, on va les exclure de manière permanente.
Pénurie de produits, restriction de fumée dans les lieux publics ou même chez soi, possible resserrement de l'âge légal, l'accès au cannabis ressemble plus à un parcours à obstacles qu'à un chemin vers le nirvana. La prochaine étape, octobre 2019, lorsque le gouvernement canadien va proposer l'introduction de cannabis dans certains aliments. Légalisation du cannabis au Canada, qu'est-ce qui a changé depuis 4 mois? Un reportage de Marie-Laure Josselin et Pascal Guéricola, une réalisation d'Eva Piedel.